Dans ce mug numéro 54, édition spéciale sur la chaîne principale, on est vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sur les boutons de la régie. Désolé pour ce petit micmac du matin. Bienvenue donc sur ce live, le mug, sur la chaîne principale, comme d'habitude, le vendredi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut savoir que cette émission a lieu tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, sur notre chaîne secondaire, qui s'appelle Nowtech Live. Donc, si ce concept d'émission vous plaît et que vous avez envie de suivre une matinale, comme d'habitude, comme on est vendredi, on va faire des news fraîches de ce vendredi. Donc, on démarre tout de suite le cas. Petite question technique. Est-ce que le son... Est-ce que ça revient? C'est revenu et je pense que ça va être plus stable. J'espère que ça va juste pas foutre la merde au niveau des replays. Donc si ça a généré deux replays, on a eu un petit bug technique au début de cette émission spéciale du vendredi dispo sur la chaîne principale. C'est peut-être le deuxième démarrage du flux live. C'est de retour. Il faudra que je voie au replay si ça n'a pas posé de problème. Bon, on va commencer par les news. Donc le récap des news les plus intéressantes de cette semaine, en tout cas à mon avis. Donc on va aller assez vite sur le récap. On va parler de Plex. Plex qui lance un service de vidéo gratuite à la demande. Donc dans la grande bataille du streaming qui, on va dire, commence vraiment cette fin 2019, l'arrivée de Disney Plus bientôt, Apple qui rentre dans la bataille, tout le monde fourbit ses armes, et bien Plex arrive avec des films gratuits. Non, c'est pas gratuit, c'est compte de la publicité. Donc, vos espaces de cerveau disponibles, donc c'est financé par la publicité. Pour l'instant, très honnêtement, je ne suis pas encore allé voir, mais de ce que je vois, il n'y a pas encore grand-chose. Ça peut être pas mal pour une ou deux soirées, il y a quand même des films assez sympas. L'avantage, et on ne va pas se plaindre, c'est que vous n'avez pas... En tout cas, à payer avec argent sonnant et trébuchant, vous avez juste à payer en regardant et en prenant des publicités dans la face. Il y en a beaucoup moins manifestement quand même qu'à la télé. Vous n'avez pas des longs tunnels de pub comme on a à la télé. Mais bon, voilà, il faut le savoir, il y a de la pub. C'est disponible sur Plex. Plex est gratuit au téléchargement sur iOS, sur... TVOS, sur Android, sur tout le monde, hein, en fait. Hein. Plex, c'est partout. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Plex, donc ça peut être sympa. On continue dans les news de la semaine. Apple a effectivement fait une cérémonie pour les meilleures apps de l'année. On va aller vite sur les gagnants, mais c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avoue que je télécharge de moins en moins d'apps. Mes besoins, enfin, ça m'arrive, mais la plupart de mes besoins sont remplis. Et quand même, il y a beaucoup de fonctionnalités, en tout cas sur iOS, de base, que j'utilise de plus en plus. Des apps que j'utilisais avant pour la gestion des tâches ou ce genre de choses, bah finalement, je suis revenu à ce qui est intégré, parce que ça s'est amélioré, ce qui est intégré dans l'OS. Donc, c'est peut-être une tendance lourde, des OS de plus en plus musclés au niveau des fonctionnalités, et on télécharge un peu moins bien, un peu moins d'applications mobiles. Application, la meilleure application mobile 2019 pour Apple, hein, donc ça concerne que les iPhones, c'est Spectre Camera. J'ai testé, c'est très intéressant, ça permet de faire des pauses longues avec vos caméras de smartphone, c'est pas mal foutu et très jolie interface. L'application iPad de l'année, c'est Flow by Moleskine, c'est un carnet de notes. Très très joli pour faire des croquis, pour prendre des notes. C'est assez chouette. J'ai pas testé non plus. L'application Mac de l'année, c'est Affinity Publisher. C'est un logiciel de PAO. Moi, ça me ramène à mon vieux métier, qui a l'air assez simple, assez joli. J'ai pas testé non plus. L'application TV de l'année, c'est de Explorer. Ça aussi, ça a l'air très très joli. avec une interface très visuelle. Et manifestement, c'est une communauté d'explorateurs, de scientifiques et d'artistes qui travaillent sur un but commun, à avoir une base de données visuelle compréhensive du monde naturel. Donc, assez chouette comme projet. Sinon, dans les meilleurs jeux de 2019, le meilleur jeu iPhone revient à Sky Children of Light. Je ne l'ai pas testé, ça a l'air très joli. Un point commun de toutes les apps, et ça, c'est un peu la signature Apple, c'est que les designs, les graphismes, notamment dans les jeux, sont pas conventionnel. Il y a une grosse tendance lourde quand même d'artistes qui font de plus en plus d'apps et c'est un peu, en tout cas on sent que c'est un critère important dans la nomination des gagnants. Et là c'est le cas, je vous montre un petit coup ce que donnent les graphes. Voilà, un screenshot de Children of the Light. C'est des graphismes un peu travaillés. Le jeu iPad de l'année, alors ça c'est du 16 bits, Hyper Light Drifter. Voilà, ça a l'air sympa aussi, même si j'avoue que je commence à être un peu lassé des jeux en 16 bits. Je trouve que c'est un graphisme qu'on voit un petit peu trop, mais bon, ça c'est moi. Le jeu Mac de l'année, quoi, on peut jouer sur un Mac, oui, manifestement, et ça s'appelle Gris. Là aussi, un design très très particulier, très très particulier. L'application TV, alors le jeu TV, Apple TV de l'année, Wonder Boy The Dragon Trap. J'avoue que j'avais un peu oublié qu'on pouvait jouer directement sur l'Apple TV. Je le fais jamais, avec notamment la télécommande qui peut servir de manette. Mais peut-être que certains d'entre vous le font. Moi, je sais que je joue pas du tout sur l'Apple TV. Le jeu Apple Arcade de l'année pour l'abonnement. Alors ça, par contre, j'y ai joué un petit peu. On le voit dans mes tests des iPhones. C'est le jeu Sayonara Wild Heart, dont le graphisme est absolument génial. Parti pris artistique très très fort. Le jeu en lui-même, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais vraiment à essayer, notamment si vous avez gardé Apple Arcade. Vraiment un jeu très très chouette, quoi. Très très chouette. Voilà un petit peu pour les nominés de l'année. À vous maintenant de les tester, si le cœur vous en dit. Je crois que la plupart sont gratuits. Hein. Je n'ai pas checké, mais... celui qui est dans Apple Arcade, il faut prendre Apple Arcade. Mais si vous n'avez pas encore fait votre mois gratuit, c'est peut-être l'occasion. Jeu nul mais magnifique. Merci Vincent, tu as bien résumé. Dans les news de cette semaine qu'il fallait pas rater, Netflix, un vrai danger, des hackers réactifs d'anciens comptes afin de les revendre. Si vous êtes désabonné de Netflix mais que vous n'avez pas effacé votre carte bleue, il faut peut-être vous assurer de le faire, puisque ce qui s'est passé, c'est que des hackers, comme certains un peu débiles, utilisent le même mot de passe entre le site poupouyou.com et leur compte Netflix avec le même mot de passe. Poupouyou.com s'étant fait hacker, hein, le site bien connu, hein, poupouyou.com. Je suis sûr que certains sont en train de chercher poupouyou.com. des hackers assez malins se sont dit, les cartes bleues, elles sont encore actives. Donc, on hack ces comptes-là, on les revend à 3$ sur le black market. Le temps que les gens s'aperçoivent qu'ils sont prélevés de leur carte bleue de Netflix, le temps qu'ils signalent à Netflix qu'il y a un problème, celui qui a acheté son compte pirate à 3$, il a quelques mois de visionnage de Netflix à votre compte. Je m'en vais acheter le nom de domaine. Les gens se demandent comment on orthographie poupouyou.com. À vous de voir. Il y a ceux qui savent connaissent. Phrase complètement inutile du matin. donc méfiez-vous effectivement. Et puis si vous désabonnez de Netflix un de ces jours, pensez à enlever vos informations bancaires. Pensez également, Marion, quand elle a fait l'article, il y a une double authentification sur Netflix. Elle n'est pas activée par défaut. Donc ça peut être une bonne idée de l'activer aussi. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que Netflix garde ta carte bleue si le compte est désactivé. Je pense que ça part d'une bonne intention de Netflix. C'est une bonne intention. Disons que c'est pour faciliter la réactivation de ton compte, au cas où tu regretterais, parce que Poupouillou, hein, saison 3 est sortie, et tu te dis, merde, j'ai envie de continuer la série, et ben hop, tu peux te réabonner tout de suite, puisqu'ils ont encore tes informations bancaires. La plupart des... Sachez-le quand même, c'est pas Netflix. Je crois pas me tromper en disant que la plupart des comptes qui rentrent vos coordonnées bancaires ne les effacent pas si vous arrêtez simplement le compte. C'est à vous de faire la manip. Non, ça n'existe pas la double authentification. D'accord, donc il y a eu des contradictions dans la chatroom. Pas de double authentification sur Netflix. Ok, donc confirmation par Samuel. Samuel étant la seule personne un petit peu crédible dans cette émission, moi compris, il faut que vous écoutiez Samuel. Pas de double authentification. Donc oubliez ce que j'ai dit à la fin. Ce qu'il y avait d'important à retenir aussi cette semaine, Larry Page et Sergey Brin ont laissé les clés de Google et d'Alphabet à Sundar Pichai. Ils prennent du recul par rapport à la société qu'ils ont fondée il y a 20 ans. C'est un long processus, hein, de toute façon. Ils ne veulent plus être dans les affaires quotidiennes de la société qu'ils ont fondée. Après 20 ans, on a envie peut-être de faire autre chose. Ils continueront, hein, quand même à travailler en tant que salariés pour Google, pour Alphabet. Ils seront dans le board des actionnaires, puisque c'est quand même les plus gros actionnaires. Ils sont à la tête d'une incroyable fortune, évidemment, en tant qu'actionnaire de Google. C'est vrai que Sundar Pichai n'est pas dans la situation la plus facile pour Google, même s'il y a toujours des bonnes choses qui sortent de Google. Il y a aussi quand même un tas de caca qui leur revient à la gueule en ce moment, entre les problèmes de YouTube, les problèmes de vie privée et des problèmes en interne, puisqu'il y a de sombres histoires en interne qui commencent à réveiller. On a vu une grève chez Google. Il n'y a pas que les Français qui font la grève, il y a aussi Google, hein, de temps en temps. Voilà, à Sundar Pichai de reprendre les rênes de tout ça. Lui, il a dit qu'il n'y a pas grand-chose qui changerait, mais c'est sûr que maintenant, il a encore plus les mains libres. Ce qu'il y avait d'intéressant à retenir et d'inquiétant aussi cette semaine, c'est la Chine. La reconnaissance faciale est désormais obligatoire pour toute personne qui prend une carte SIM en Chine. Donc la Chine continue effectivement dans sa démarche de fichage de sa population. Alors, certains vont peut-être dire, mais finalement c'est bien parce que comme ça les terroristes, on aura leurs photos s'ils prennent une carte SIM. C'est le long débat que nous avons continuellement sur cette chaîne et c'est pas un hasard si des gouvernements à tendance totalitaire ou totalitaire s'emparent de ces nouveaux outils avec une certaine délectation. Le contrôle des populations est rendu tellement plus simple avec ces technologies que c'est sûr qu'ils s'en empressent. Et bien sûr, ils disent que c'est pour protéger la population, la sécurité étant toujours l'argument numéro un des dictatures. Ne l'oublions pas. Et on termine, pour moi c'était quand même la news la plus importante, je l'ai faite samedi dans le live de Romain, les 24 heures live, d'ailleurs dont le replay est disponible, si certains ont raté les 24 heures live de Romain et veulent se faire 24 heures de live en replay, ils ont réussi enfin à uploader les 24 heures, donc ça leur a pris du temps, sont dispo sur la chaîne de Romain. Et j'y ai fait un mug hors série, Special Edition, samedi. Et je vous parlais d'une news extrêmement grave, puisque les toilettes de l'ISS viennent de péter. Ils n'ont plus de toilettes. Ils avaient deux toilettes. Les deux toilettes ne marchent pas. Je salue au passage nos amis de Combini qui ont fait un jeu de mots que j'aurais pu faire, puisque le titre de l'article s'appelle « Cacastrophe ». Les toilettes de l'ISS viennent de se péter. Ça vous paraît rigolo, mais c'est pas rigolo du tout. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'article où la commandeur Luca Parmitano, qui était à bord de l'ISS, explique comment fonctionnent les toilettes. Et c'est pas une partie de plaisir. Et franchement, c'est pas une partie de plaisir. Faut pas viser à côté, hein. Donc, les garçons, en fait, il faut mettre tout le bazar dans des tuyaux. Et puis, ça doit aspirer. Il n'y a plus de gravité. Donc, En gros, ça revient un peu à faire pipi et caca dans un ventilo. Hein, schématiquement, c'est un peu ça. N'essayez pas chez vous. Les résultats sont vraiment pas bons. Mais c'est ce qui se passe au bord de l'ISS. Et vous allez me dire, mais comment ils vont faire maintenant? Eh ben, ils vont devoir faire dans leur couche. Eh ouais, pas très drôle la vie quand même d'hommes de l'espace. Ils vont devoir faire dans leur couche le temps qu'une solution soit trouvée. Il faut savoir quand même que c'est des toilettes qui valent 19 000 $ pièce. Hein. Donc, c'est pas le petit plombier du coin qu'on va envoyer pour réparer ça. Oui, c'est plutôt un aspirateur qu'un ventilo. Excusez-moi, je me suis trompé de sens. Mais c'est moi où il a essayé, jambes dans un... Je suis testeur, je teste tout. Tout ce que je dis, je le fais. Ne me croyez jamais, ne me prenez jamais pour argent comptant. Voilà les news importantes de la semaine. Mais le vendredi hein, n'est pas un jour chômé. Il y a des news fraîches d'aujourd'hui. On va attaquer ces news fraîches d'aujourd'hui. Ça commence par Apple qui avait un début de shitstorm. Puisque effectivement, des personnes s'étaient aperçues qu'Apple utilisait en arrière-plan des données de localisation qui étaient collectées. Or, Apple est le grand chevalier blanc maintenant de défense de votre vie privée, donc un mini-scandale potentiel qui pouvait éclater à la gueule d'Apple. La première réponse d'Apple n'avait pas été très convaincante. En gros, ils ont dit « Non, bah, vous inquiétez pas, c'est normal ». Ouais, tu nous expliques quand même un petit peu ce qui se passe, pourquoi il y a des données. Je sens que je vais taper dans les boules de Noël assez souvent. Hein. parce que le sapin, il est juste à côté de ma gueule, hein, il faut le savoir. Donc, des explications qui ne nous satisfaisaient pas, eh bien, Apple a apporté une réponse plus complète et, à mon sens, rassurante. En fait, ça vient de la puce U1 dans les iPhones, qui permettent aux iPhones de 2019, donc les iPhone 11 et 11 Pro, de profiter d'une technologie qui s'appelle l'Ultra Wideband, qui permet notamment les échanges améliorés par AirDrop. Et en fait, le smartphone a besoin de la localisation. Le grelot, ça va être sympa aussi. A besoin de la localisation pour savoir s'il a le droit d'utiliser l'ultra wideband à tel ou tel endroit. Donc, c'est une fonction de géolocalisation. Et cette fonctionnalité est directement gérée par le smartphone et aucune information sur la localisation n'est envoyée sur les serveurs d'Apple. Donc, ils ont amené des preuves concrètes de ça. Voilà. OSS 117, Noël les boules. Grand moment, OSS 117. Hein, nouveau OSS 117 en tournage. On l'attend avec impatience. Hein, je continue avant de partir dans les graviers. Et je continue par Instagram. Instagram, eh bien maintenant, il va falloir donner votre âge. Hein. Fini les Instagrammeurs de moins de 13 ans. Puisque normalement, la plateforme n'est pas autorisée aux moins de 13 ans. Mais maintenant, il va falloir qu'ils donnent leur date d'anniversaire. Alors, c'est très, très poreux, hein, puisque c'est un système déclaratif sur l'honneur. Aucune vérification spécifique n'est faite sur l'âge des inscriptions. Mais au moins, ça va permettre à Instagram d'avoir, entre guillemets, des moyens de dire « bah non, là, cette personne, soit elle a menti sur sa... » Et si on voit une tête de gamin visiblement de moins de 13 ans, ça va commencer à faire chelou. Donc, c'est effectivement une manière de protéger. C'est la grosse tendance lourde hein, des réseaux sociaux, de YouTube et tout ça. C'est de séparer les moins de 13 ans du reste des utilisateurs, notamment effectivement avec la loi COPPA aux États-Unis. Vu que les amendes commencent à pleuvoir, ça va vraiment être le cheval de bataille des réseaux sociaux cette année. Et autre fonction qu'a activé Instagram et qui, ça va pas vous faire plaisir, mais moi, ça me fait très, très plaisir. J'ai pu enfin désactiver les messages. Il faut savoir que j'ai une boîte aux lettres qui m'empêche de dormir. Enfin, j'en ai même plusieurs et qui se remplit tous les jours. C'est des messages qu'on m'envoie sur Instagram que moi je reçois dans la mention requête de invitation, je n'ai absolument pas le temps de lire. Parfois, j'y jette un œil, je vois 99 messages là-dedans. Je cours me réfugier sous ma couette. Et bien maintenant, vous ne pourrez plus essayer de me joindre par ce moyen-là. Je suis obligé vraiment de sélectionner les canaux par lesquels je peux répondre et ils deviennent de plus en plus étroits. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis obligé de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent me joindre directement, notamment pour me poser des questions matos et tout ça. Pour plusieurs raisons, j'ai essayé de l'expliquer à quelqu'un sur YouTube l'autre jour. Moi, je reçois entre 20 et 100 messages de demandes de comment je dois m'équiper, quel appareil je dois acheter. Si j'accordais 2 à 5 minutes par jour à chacun de ces messages pour répondre, c'est simple, je ne ferais plus de vidéos. Ce serait juste pas possible. Peut-être qu'un jour, on aura assez d'argent pour embaucher quelqu'un pour répondre à tous ces mails. Et la deuxième chose, c'est que le problème, c'est quand je réponds à une personne, généralement, j'en ai 20 qui m'ont posé à peu près la même question. D'où, moi, le meilleur moyen, effectivement, pour que je vous réponde, c'est par exemple tous les matins dans les camps de fac. Pendant le live, je vous fais une réponse en direct. Tout le monde l'entend. Ça peut être sympa pour tout le monde. Sinon, pour les contributeurs, c'est sur la messagerie Tipeee, notamment. Je cherche, hein, j'ai toujours pas trouvé le moyen pour que tous les contributeurs puissent me contacter facilement. Après, j'essaye de répondre de temps en temps sur YouTube, mais j'ai pas toujours le temps. Je vais être honnête. Voilà. Donc, on va devoir t'envoyer un recommandé. M'envoyez rien. M'envoyez rien du tout. Ce que j'aimerais surtout, c'est... parce qu'il y a aussi des gens qui doivent me contacter pour des choses importantes. Donc, je ne peux pas couper tous les flux de communication. Mais tous ceux qui ont des demandes de matos, je ne peux pas gérer. Ça me prendrait un temps fou. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça, essayez de compter entre 20 et 100 messages par jour que je reçois de demandes de matos. Voilà, ouais, je vous le dis, moi, c'est la bonne nouvelle pour moi. C'est pas forcément la bonne nouvelle pour vous. En même temps, ça devait être frustrant pour vous. Vous m'envoyez des messages et je vous répondais pas. C'est pas top non plus. Allez, on continue dans les news du jour. Est-ce que l'iPhone ne va plus avoir de prise du tout? C'est la grosse rumeur du jour. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Vous pouvez... Et oui, il y aura un article sur la formule E. Et y a game, t'inquiète pas, ça arrive à la fin. Est-ce que l'iPhone n'aura plus du tout de prise en 2020-21? Un iPhone complètement wireless. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Apple va le faire? Alors... là où c'est, on va dire, quelque part, c'est possible. La plupart des fonctionnalités, recharge, écoute au casque, etc., on peut tout faire en wireless. Est-ce qu'on peut tout faire bien en wireless? Ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même aujourd'hui des problèmes avec la recharge sans fil, qui sont les performances de la recharge sans fil, qui sont de charger une petite charge rapide, le fast charging en wireless, c'est beaucoup moins performant. Il y a un problème auquel j'avais pas pensé, mais qui est hyper important, c'est que les voitures ne sont pas toutes équipées pour se connecter à votre smartphone en wireless, et les voitures, on n'a pas tous les changer toutes les 2-3 ans non plus. Donc ça peut poser un gros problème. Bon, on va dire que les écouteurs et les casques, il y a toujours des réticents au passage wireless, mais la chose est plus ou moins faite. Et puis, il y a aussi le problème, quand votre téléphone est déchargé, de pouvoir continuer à l'utiliser alors qu'il est en charge. Aujourd'hui, le wireless demande vraiment un contact très proche, sans parler des batteries portables. Il va falloir des batteries portables wireless, ça serait un peu une tannée. Est-ce que Apple est quand même capable de le faire? Ils nous ont quand même enlevé le lecteur de carte SD, à mon avis, 10 ans avant tout le monde. Ils seraient capables de faire rien que pour nous péter les couilles. Ils sont bons à ça, Apple. Donc, 2021, un iPhone complètement wireless, ça dépend. Soit Apple a une technologie de recharge à distance ultra rapide dans sa poche, soit j'y crois pas. Personnellement, moi, j'y crois pas. Bonjour, tu vas finir avec des vidéos qui ne seront plus visionnées si tu es inaccessible avec ton auditoire. Oui, mais Bruno, si je suis mort parce que je dors que 2 heures par nuit, parce que j'ai des journées de travail qui durent 22 heures, ça sera pas génial non plus, en fait. Donc, je suis obligé de composer avec tout ça. Le but étant, effectivement, de gagner assez d'argent pour éventuellement embaucher un CM pour pouvoir s'occuper qu'on ait des meilleures réponses en fait à l'auditoire. J'y crois pas, mais ça arrivera. Je pense que ça arrivera un jour. Après, il y a un autre problème auquel j'avais pas pensé, c'est effectivement aussi comment on dépanne un smartphone qui n'aurait plus du tout de port. Parce que vous le savez, quand vous amenez un smartphone qui déconne, ils ont besoin quand même d'un port pour brancher, pour faire un diagnostic de votre smartphone. Peut-être pas si simple que ça, cette histoire. Ouvre un Discord. Ben, j'ai déjà un Slack, hein, mais il est réservé aux contributeurs, c'est vrai. Tu penses peut-être que l'iPhone passera à l'US? Moi, j'attends. Déjà, je suis déçu que cette année, on ne soit pas passé à l'USB-C. Je pense qu'il faut vraiment qu'Apple passe les iPhones, en tout cas les iPhone Pro, dès l'année prochaine de l'USB-C. Honnêtement, si l'iPhone Pro l'année prochaine n'a pas d'USB-C, pour moi, ça sera un point vraiment négatif. Cette année, je veux bien laisser passer, même si ça me pète les couilles. Mais l'année prochaine, ça passera pas, Apple. Hein. Attention, hein, je vais faire une vidéo, je vais pas être gentil, hein, ça va faire chuter vos ventes. Ouyaya. Ah là là, comme si on avait la moindre influence. Les influenceurs sans influence, ça pourrait être le titre d'un bouquin. C'est quoi le site Poupouillou? Ah ben si tu connais pas, tu rates quelque chose. Hein. Y a certainement un port caché dans l'iPhone pour le diagnostic, peut-être. Peut-être, peut-être. Ouais, je pense que Apple tremble. En m'entendant, là, Tim Cook est en train de se dire « Oh, what the fuck? Jerome just said that if we don't do the USB-C, we're dead. » Le Lightning est meilleur, juste l'idée d'avoir qu'un, ça c'est cool. Ouais, non, mais je veux bien que le Lightning soit très bon, mais là, j'en ai marre de me trimballer des câbles juste pour mon iPhone. L'iPad est passé à l'USB-C. Ça tiendrait, cette histoire de garder le Lightning, si c'était entêté sur l'iPad. Mais aujourd'hui, mon iPad est en USB-C, mon ordinateur Mac est en USB-C, il n'y a plus que mon putain d'iPhone et mon Apple Watch qui ne sont pas en USB-C, quoi. Et quand je parle de l'Apple Watch, c'est le système de recharge de mon Apple Watch qui n'est pas en USB-C. Vivement les batteries au graphène. Ouais, on verra. Peut-être que Apple a une technologie révolutionnaire. Allez, on est en train de passer beaucoup de temps sur cet article. J'enchaîne, sinon on n'aura pas le temps de faire une tartine. Et je veux faire une tartine sur les YouTube Awards. Donc c'est important. Hein. On va avancer. On va parler du Black Friday. C'est fini. Mais justement, on a les résultats. Je vous avais parlé des résultats américains. On a les résultats français. Eh bien, malgré effectivement une contestation légitime, je le dis tout à fait, cette contestation des Black Friday est légitime et j'y souscris pour une certaine part. Malgré la contestation, le Black Friday a cartonné sans surprise en France. C'est pas moins de 6 milliards d'euros qui ont été dépensés par les Français entre le 29 novembre et le 2 décembre 2019. Excusez-moi, je bois une gorgée de thé. Donc le commerce en ligne, bien sûr, alors c'est 6 milliards tout commerce confondu, hein, physique et en ligne, mais bien évidemment c'est le commerce en ligne qui a été le grand gagnant de ce Black Friday. Les sites les plus prisés par les Français, sans surprise et malgré la contestation et l'anti-Amazon qu'il y a, là aussi légitime pour une part, au niveau d'Amazon, c'est quand même Amazon qui tire son épingle du jeu, puisque une moyenne de 6,82 millions de visites par jour en novembre, Le géant américain rafle également la mise le 29 novembre avec 10,47 millions de visites, soit une augmentation de 53% par rapport à l'année dernière. Derrière, on trouve Cdiscount. Cdiscount qui a vraiment bien performé cette année avec le site a profité de l'événement pour atteindre 4,9 millions de visites le 29 novembre contre une moyenne d'à peu près 2,3 millions de visites journalières en novembre. Donc une augmentation de 120% et un chiffre d'affaires en hausse sur ce jour-là par rapport à l'année dernière, plus 102%. Donc Cdiscount a bien géré son Black Friday d'un point de vue financier. Encore une fois, je ne lis même pas la chatroom parce que ça doit s'égorger dans la chatroom. La Fnac a fait une performance moyenne. Pas beaucoup d'augmentation par rapport à l'année dernière, mais quand même une augmentation de son trafic de 111% par rapport au jour précédent le Black Friday. Boulanger, en léger recul par rapport à l'année dernière, a tout de même enregistré un pic de trafic de 1,3 million de visites le Black Friday. Rakuten, en légère progression par rapport à l'année dernière, se situe loin derrière ses concurrents avec 1 million de visites le 29 novembre, soit une augmentation de 62% contre 52% en 2018. Des chiffres et de l'argent. Le capitalisme, capitalisme, capitalisme. Tout à fait d'accord, mais c'est une info quand même. Boulanger, le site a bugué. Ah tiens, je ne savais pas. On a alors Big Blocks dans notre émission régulière du matin, puisque cette émission a lieu tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi sur notre chaîne secondaire. On a déjà eu beaucoup de débats sur le Black Friday. Donc je vous invite à aller voir les replays de nos émissions précédentes sur la chaîne Nowtech Live. Et vous verrez les débats qu'on a eus sur le sujet. Je vais vous parler de voitures et de voitures de course. Et là, vous faites quoi, Jérôme, qui nous parle de bagnoles et de bagnoles de course alors qu'il n'en a rien à foutre et qu'il conduit même pas de bagnole? Eh ben oui, parce que je trouve ça intéressant et que ce qui vient de se passer est super intéressant, puisque la, je sais pas si on dit FIA ou FIA, en tout cas c'est la Fédération internationale d'automobile vient d'accorder à la Formule E un statut, le même statut que les autres courses. Pendant longtemps, on a vu la Formule E comme une sous-discipline. C'est la discipline 100% électrique de voitures de course. Eh bien, maintenant, la FIA ou FIA a décidé que ça allait devenir un championnat du monde à part entière, exactement comme la Formule 1, le rallye, il y avait autre chose, l'endurance. Un championnat du monde à compter de la saison 2020-2021. Les champions de Formule E ne seront plus simplement champions de Formule E, mais champions du monde de Formule E. Des acteurs prestigieux, effectivement, maintenant, rentrent dans ces courses de Formule E avec Porsche, Mercedes, Jaguar, BMW, Nissan ou encore Audi. Donc, des acteurs de plus en plus importants. Bien évidemment, la Formule E, pourquoi c'est important au-delà des courses, c'est que toutes les technologies qu'on va retrouver dans les voitures électriques sont développées, testées, éprouvées avec la Formule E, notamment la performance des batteries, ce genre de choses. Je sais qu'aujourd'hui, la voiture électrique n'est pas la panacée de l'écologie, hein, qu'on parte même pas dans ce débat, mais les progrès qu'on fera sur la voiture électrique, et ça, même les plus contestataires de la voiture électrique reconnaissent que si certains progrès sont faits sur la voiture électrique, l'empreinte carbone de la voiture électrique sera grandement diminuée. Donc, ça va plutôt bien, ça ira plutôt bien dans ce sens-là par rapport aux énergies fossiles pour les voitures. Donc, c'est pas de la Formule 1, la FE. Non, mais ça ne veut pas dire que ça va faire disparaître la Formule 1. Mais ça veut dire que la discipline Formule E, qui pour l'instant était un peu reléguée en... même s'il y a eu des grands pilotes hein, qui font de la Formule E. Là, la grosse différence, c'est que ça acquiert un statut officiel de championnat du monde. Ça ne va pas tuer la Formule 1, en tout cas pas pour l'instant. Puis je pense que Ça, c'est de ce que j'ai compris et de ce que j'ai regardé, c'est pas le même type de pilotage, c'est pas les mêmes types de moteurs. C'est sûr que la Formule 1, ça fait pas du tout le même bruit qu'une Formule 1. Je pense que la Formule 1 continuera. Ces deux disciplines, c'est comme si tu me disais le rallye allait tuer la Formule 1. Non. Mais maintenant, la Formule 1 devient une discipline à part entière. Alors, personnellement, pour avoir regardé, du coup, quelques courses de Formule 1, moi, j'aime bien le bruit des moteurs de Formule 1. Je trouve ça, waouh, j'ai l'impression d'être dans Tron, quoi. Le fait que les circuits, de ce que j'en ai vu un qui se passait dans Paris, que les circuits soient dans des villes comme les circuits de Formule 1, genre Monaco, c'est assez excitant aussi. C'est super nerveux comme voiture, j'ai l'impression. J'aime pas vraiment regarder les courses de voiture, donc ça m'a pas passionné plus que ça. Mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Le safety car sera un Cybertruck qui ira plus vite que les formules Merco, BMW. Bon, alors là, il y en a, là, mais en même temps, les gens qui aiment la Formule 1, c'est pas un risque, hein. La Formule 1 va pas disparaître, hein. Tu vois et tu entends une Formule 1, tu t'en rappelles à vie. Je sais, j'ai déjà entendu hein, une Formule 1. Je m'en rappelle à vie. J'ai pas trouvé ça hyper agréable, hein, personnellement. Mais. C'est mon boulot de parler de Formule 1. Ah ouais, Vincent, je savais pas. C'est cool. C'est cool. Ça va tuer les courses hippiques. Écoutez, l'évolution est une vague. Une vague, soit tu essayes de l'arrêter avec du sable en faisant des barrages de sable et ça a très peu de résultats, soit tu apprends à surfer sur la vague. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur le progrès et l'évolution, hein, puisque c'est comme ça que je pense. Le bruit de la bonne mécanique. Et pourquoi il n'y aurait pas de la bonne mécanique électrique ? Tu sais, je pense qu'il y a, sans critiquer ceux qui sont des fervents défenseurs de la Formule 1, et encore une fois, la Formule 1 ne va pas disparaître, je pense que quand il y a dû avoir les premières courses de voitures, tu devais effectivement avoir des mecs qui étaient là, non mais ça va tuer la course hippique. Ils sont là avec leurs moteurs polluants qui font du bruit, la course hippique, la beauté du cheval et du muscle, et de la sueur de ces animaux, on va les perdre. Ben non, il y a toujours des courses hippiques. Peut-être qu'il y en a moins. À mon avis, il y aura toujours de la Formule 1. Peut-être qu'il y en aura moins. J'en sais rien. On verra. C'est pas de la mécanique, c'est de l'électronique. Je suis pas du tout d'accord, Théo. À partir du moment où il y a une motorisation et tu fais avancer une voiture, il y a de la mécanique. Et tu vas me dire aujourd'hui que les Formule 1 n'ont pas de l'électronique. C'est plutôt des monstres électroniques aussi. Toute la mécanique électrique ou pétrolière. Pas de gaspillage, faut épuiser les réserves de pétrole. Oui, alors ça, la pollution de la Formule 1, on pourrait en discuter parce que une course de Formule 1, même si c'est des moteurs évidemment qui sont assez polluants, mais et d'ailleurs j'ai vu quelqu'un le disait aussi, la Formule 1 pollue moins que le Tour de France, parce que si tu comptes toutes les bagnoles qui suivent le Tour de France, ça pollue plus qu'une course de Formule 1, quoi. Donc, faut raison garder. Allez, on termine, et c'est la dernière nouvelle du jour. Est-ce que j'ai le temps ? On va la faire rapidement. Je vous avais parlé de la disquette qui était signée par Steve Jobs.
Voici les prévisions météo aujourd'hui.
Mais est-ce que je t'ai demandé ? Je vais rester poli avec toi, Siri. Mais est-ce qu'à un moment, je t'ai demandé les prévisions météo ? J'ai simplement levé le bras. Écoute-moi quand je lève le bras. J'allais parler en plus de Steve Jobs, tu vois. Donc, me donne pas la météo. Le Tour de France, c'est les camping-cars, le problème. Ban les camping-cars. Elle écoute en permanence. Non, en fait, c'est quand je lève le bras qu'elle se déclenche. Bref, je vous avais parlé de la disquette signée par Steve Jobs, qui était très, très rare parce que Steve Jobs n'aimait pas faire des autographes, n'aimait pas signer, c'était pas trop son truc et il refusait la plupart du temps. Et là, il y avait une disquette du Macintosh System Tool version 6.0. Je vais vous montrer le visuel. Voilà, cette disquette-là a été mise aux enchères à 7 500 $. Eh bien, ça s'est vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, puisque ça s'est vendu à 85 000 $, d'où la rareté, effectivement, d'une signature de Steve Jobs certifiée, même si elle a bavé un peu sur l'étiquette. J'espère juste qu'il a écrit au stylo permanent, parce que si tu l'as acheté à 85 000 $ et que tu la prends dans tes mains et tu fais « Ouais, je l'ai, je l'ai !» et avec ton pouce, tu effaces la signature, eh bien, tu as juste une disquette inutile à 85 000 $. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Voilà. Et c'était la dernière news de ce matin, de ce vendredi matin. Et avant qu'on passe à la tartine, parce que dans la tartine, on va parler du YouTube Rewind, hein, la vidéo qui récap' les meilleurs moments de YouTube cette année, qui va faire encore polémique cette année, je pense. Justement, on en parlera dans la chatroom. Mais avant, j'aimerais parler de notre sponsor, le sponsor de l'émission tous les matins, ceux qui nous accompagnent et qui croient dans le mug. Ils sont derrière moi tous les matins, puisqu'ils sont sur mon petit coussin, c'est Shadow et son Shadow PC, un PC de gaming à puissance déportée. Alors, c'est un vrai PC. Vous pouvez faire autre chose que jouer, mais il est conçu pour pouvoir jouer. C'est la grande différence. Les PC à puissance déportée, les VM, existent depuis quasiment que l'informatique existe. Mais Shadow est une offre accessible aujourd'hui pour pouvoir avoir un ordinateur de gamer à distance qui est mis à jour en permanence, enfin en permanence, qui est mis à jour régulièrement. Donc, vous payez un abonnement pour accéder effectivement à votre PC déporté, mais après, vous n'avez plus à vous occuper de rien. C'est un vrai Windows 10 qu'il y a dessus. Vous pouvez lancer vos jeux PC. Si vous arrêtez le Shadow, vous avez toujours vos jeux PC. Vous pouvez jouer sur un PC physique. De plus en plus de gens que je rencontre ont des PC physiques, mais prennent un Shadow en plus. Ils gardent leur PC si jamais il y a le moindre problème, mais sans devoir se dire, je vais devoir l'upgrader avec une nouvelle carte graphique, machin, etc. Puisque je peux faire tourner mon Shadow PC dessus. Donc, c'est pas forcément incompatible. Shadow, c'est français d'origine. Oui, effectivement, c'est une boîte française. Et alors, Shadow va vous permettre de gagner une fois par semaine un mois de Shadow gratuit. Et aujourd'hui, nous avons un gagnant. Même mieux, nous avons une gagnante aujourd'hui. Et la gagnante, je vais vous montrer son tweet qui lui a permis de gagner. Vous allez comprendre comment vous aussi vous pouvez gagner, puisque c'est Marie qui nous dit « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug Nowtech pour jouer à Planet Zoo. » Donc, Zoo. Donc, Marie, eh ben, tu vas pouvoir concrétiser ton rêve. Vous avez vu, elle a composé un tweet. Elle a suivi d'abord le Twitter de Shadow underscore France. Et ensuite, elle a composé un tweet dans lequel elle nous dit ce à quoi elle a envie de jouer ou l'application qu'elle veut utiliser sur son Shadow PC en mettant bien les hashtags Shadow PC et le hashtag le mug Nowtech. Comme ça, on a pu la retrouver pour le tirage au sort. Bravo à toi. J'oublie de jouer toutes les semaines. Quel gogol je fais. Bah, pensez-y à y jouer. Sachez que vous pouvez rejouer si vous n'avez pas gagné. Moi, je check effectivement les gagnants qui ne gagnent pas plusieurs fois. Mais par contre, si vous avez joué une semaine et que la semaine d'après... Après, les petits malins qui jouent tous les jours, je vous ai repéré aussi, hein. Hein, faut pas me prendre non plus pour le mec né de la dernière pluie. Hein. Ou les multicomptes qui font un copier-coller de leur message, changez au moins votre message. Hein. Si vous voulez tricher, faites-le avec talent quand même. Voilà, en tout cas, bravo à toi, Marie. Bravo, bravo à toi. Y a une fusée qui décolle à 8h50. Cette Rocket Lab. Ah bon, d'accord. Allez, on va passer effectivement au mug. On va parler de YouTube. Est-ce que YouTube vous ennuie? Et surtout, est-ce que le rewind de YouTube vous ennuie? On en parle ensemble tout de suite et ça va être dans la tartine. « Voilà, on est dans la tartine. On va parler effectivement du Retube Rewind 2019. Alors, je vais vous passer un extrait sans son du Rewind pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et on va en parler tout de suite. Je vais le décrire. Je vous mets pas le son, mais je vais le décrire pour ceux qui parlent en audio. Vous le savez, hein, le Rewind l'année dernière est la vidéo la plus détestée de YouTube. Elle a eu un nombre de dislikes absolument hallucinant. Et justement, ils ont décidé de faire un petit peu le contre-pied. Ce qui avait été beaucoup reproché l'année dernière, c'est que les personnes qu'ils avaient présentées dans le Rewind ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on regardait en vrai. Dans YouTube. Donc cette année, ils ont pris effectivement des créateurs qui sont finalement beaucoup plus regardés. On y voit notamment PewDiePie qui avait été complètement exclu l'année dernière. Tiens, oula, le freeze qui s'est fait au bon moment. Freeze de la vidéo, c'est pas angoissant du tout cette image. Alors, je vais essayer de vous relancer. Oula, ça a bien planté l'histoire. Hop. On la refait. Ah, il y a Squeezie. Il y a Squeezie qui est dans le... Oh là, oh là, oh là, le plantage. Bah, bravo, ça marche bien, YouTube. J'ai envie de dire. Attendez, je reviens un peu en arrière. On revient à cette magnifique image. Et voilà, Squeezie est dans le replay. Et effectivement, ils ont du coup décidé cette année de vraiment regarder ce que les gens regardaient. Et donc, la vidéo est une grande compile des vidéos les plus likées, des vidéos les plus regardées, des nouveaux créateurs qui ont le mieux percé. Voilà, ils ont regardé en fait les stats de YouTube. Et à partir de ça, sans essayer... Ouais, et ben décidément, ça marche pas bien, hein, YouTube, ce matin. Sans du tout décider de nous... En fait, l'année dernière, le gros problème, c'est que YouTube nous avait un peu dit « Voilà le YouTube qu'on aimerait avoir, voilà ce qu'on aimerait que vous regardiez. » Et c'est là où ils se sont pris autant de dislikes, c'est que c'est pas ce que regardaient les gens. Donc c'est ça qui a posé un problème. Bah dis donc, ça lag, hein, YouTube, ce matin. Donc c'est ça qui a généré autant de dislikes l'année dernière. Là, manifestement, cette année, ils ont retenu la leçon. Et ben, ça n'a pas empêché. A priori, il y a plus de... On va aller voir. On va aller voir ensemble, regarder sur YouTube. Et ben, ça plante. Hop. Et ben, on va regarder ensemble. Alors, YouTube Rewind. On va voir le nombre de dislikes. Il montre pas les... Attendez, est-ce qu'on va avoir les dislikes? Ouais, il y a plus de dislikes que de likes. 1 million de likes, 1,9 million de dislikes. Donc, quasiment deux fois plus de dislikes. On sent que le phénomène est enclenché. Ça va être un peu le problème. C'est que maintenant, je pense que tout le monde... c'est qu'il faut disliker le Rewind. C'est presque devenu un jeu, à mon avis. Je pense que la seule solution, et c'est ce que dit l'article aussi, la seule solution, c'est aujourd'hui que YouTube fasse un vote. Je pense que si les gens peuvent voter pour ce qu'ils veulent voir dans le Rewind, ils seront peut-être moins enclins à dislike le Rewind si c'est les trucs pour lesquels ils ont voté. Donc... ça fait mal, c'est moche. Alors, un petit mot effectivement sur le montage de ce Rewind. Moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, il y a trop d'After Effects dans l'habillage de ce Rewind. Moi, ça ne me dérange pas, hein, les montages nerveux qui vont dans tous les sens. Je ne suis pas un vieux con au point de dire « Ah là là, ça va trop vite, les jump cuts, gna 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 gna. » Non, moi, je m'y suis habitué, j'aime bien cette dynamique. Il y a des gens que j'aime beaucoup, hein, dans ce Rewind. Donc ça, je suis plutôt content de les voir là-dedans. Après, je trouve que le montage aurait... Surtout vu que c'est un pêle-mêle de vidéos très, très différentes... ça aurait mérité un montage un petit peu plus clair, un petit peu plus simple, ça aurait fait du bien. Alors, la question, et là je me retourne vers la chatroom pendant qu'on laisse défiler le rewind. Est-ce que vous, et c'est la question que je veux vous poser ce matin, en 2019, est-ce que vous avez plus regardé YouTube ou moins regardé YouTube? La chatroom, vous me répondez plus ou moins. Essayez d'évaluer, hein, on va pas aller vérifier. Mais est-ce que vous pensez que vous vous éloignez de YouTube ou est-ce que vous regardez plus de YouTube? Alors on a moins, plus, toujours plus. Égal, moins, plus, pareil, plus, sans doute, plus, moins, plus. Bon, on peut déjà le dire, hein, résultat intermédiaire, notre institut de sondage, il faut vraiment que je trouve un moyen de faire des sondages un peu plus clean dans OBS, ça doit exister. On peut dire que c'est quand même, vous regardez plus de YouTube. Alors, deuxième question, on arrête de répondre les moins ou les plus. Est-ce que vous regardez plus de contenu, on va dire, grand public YouTube, ou est-ce qu'au contraire, vous commencez à spécialiser le contenu que vous regardez? J'explique un peu la question. Est-ce que vous regardez plus de chaînes spécialisées ou plus de contenu grand public où il ne faut pas trop réfléchir, un peu concon mais sympa? Essayez d'évaluer. Plus de contenu spécialisé. Voilà. Vous regardez moins le YouTube télé. Vous êtes dans la tendance de la vidéo du joueur du grenier. Le côté YouTube pour YouTube, à mon avis, qui correspond aux plus jeunes, les gens un peu plus âgés s'en éloignent. Spécialisé de loin. Et alors, dernière question. Tu ne regardes que Nowtech, je t'aime Gilles. Mais tu as le droit de regarder autre chose. Hein. Mais ne rate rien sur Nowtech. Et regardez plusieurs fois avec des IP différentes. alors, dernière question. Est-ce que vous vous êtes plus abonné à des chaînes cette année ou est-ce que vous êtes plus désabonné à des chaînes? Est-ce que vous êtes plus abonné ou désabonné cette année? En gros, est-ce que vous avez fait le ménage ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes abonné à plus de chaînes? Désabonné. J'ai fait le tri, désabonné. Mi figue, mi raisin. Désabonné, ni l'un ni l'autre, j'ai stagné. Bah écoutez, moi je vous le dis, et même si vous désabonnez de ma chaîne, je veux être prêt à courir ce risque, désabonnez-vous. Je n'arrête pas de le dire, c'est le meilleur moyen de nettoyer une partie de YouTube, de faire comprendre à certains créateurs que vous ne voulez pas leur contenu cancer, que vous estimez cancer, je ne juge pas le contenu des autres. Moi, après, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, et il y a des choses que je juge toxiques. Je sais que moi, j'ai vraiment fait le ménage cette année, des gens que j'ai suivis à une époque, ou que j'ai suivis à une époque où YouTube, on regardait un peu ce qu'il y avait, et qui maintenant, pour moi, font du contenu de merde. J'appelle ça la diarrhée YouTube, hein, moi, personnellement. Parce que ça sort généralement en grande quantité et ça n'a pas beaucoup de consistance. C'est pour ça que j'appelle ça une diarrhée. Je me suis désabonné. Ces gens-là, je ne veux plus les voir. C'est ma manière de les sanctionner. Je ne vais même pas mettre des commentaires chez eux en disant « ton contenu, c'est de la diarrhée » ou de mettre des dislikes, parce que ça, je sais que c'est plutôt bon pour eux qu'on aille mettre des dislikes ou des commentaires parce que ça génère en fait de l'activité autour de leur... Le meilleur moyen de sanctionner un créateur, c'est de se désabonner et de ne plus s'occuper de lui, ne plus aller le voir, ne plus regarder ce qu'il fait. Ça c'est une manière de donner une leçon à un YouTuber. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, c'est le conseil que je vous donne. Je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais désabonnez-vous, enlevez la cloche de toutes les chaînes que vous ne regardez plus parce qu'elles sont pour vous toxiques. Donc, ayez un comportement actif avec vos abonnements YouTube. Ça fera du bien à tout le monde. Il y a beaucoup trop de YouTubeurs, et moi compris, qui ont des abonnés qui ne regardent plus le contenu. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche, hein, même en tant que créateur. Il y a des gens qui se sont peut-être abonnés à ma chaîne il y a un moment et que je n'intéresse pas du tout ou qui n'aiment pas du tout mon contenu ou même qui jugent mon contenu toxique. Je vous en prie, ne me regardez plus et désabonnez-vous. Voilà. Ils ont osé mettre PewDiePie en premier, c'est ouf. Bah, ils ont compris. PewDiePie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas PewDiePie, PewDiePie est un vrai phénomène. Moi, PewDiePie, j'aime de plus en plus parce que je trouve qu'il fait un espèce de contre-YouTube qui est hyper intéressant et qui continue à cartonner avec ça. Je vous livrerai un jour un peu mes pensées là-dessus. Mais je trouve ça très important. PewDiePie, en plus, est en marge par rapport au Star System, alors qu'il pourrait se vautrer dans le Star System.
Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit.
Mais c'est parce que je ne t'ai pas parlé, Siri. C'est pour ça que tu n'as pas bien entendu. Hein ? Elle a envie d'intervenir dans l'émission hein, aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, moi je trouve ça très intéressant que le YouTuber le plus fort du monde, qui est PewDiePie, soit complètement en marge du star system qu'il y a autour des très gros YouTubers. Et ça me rassure en fait. Si c'était des Logan Paul et autres qui dominait YouTube, j'aurais du mal à continuer à exister sur la plateforme. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'en suis avec... Tu as vraiment de gros soucis avec les intelligences artificielles, oui. Ma vie est très dure, j'ai deux assistantes. Google m'a pas fait... Ah, ok, Google, tu m'as pas fait trop chier aujourd'hui. Ah, mais non, je crois qu'elle est éteinte. Alors, je vais faire un petit test. Attention, ça risque de fonctionner chez vous. Donc, baissez le son pour pas que j'active vos trucs. Ok, Hugo, mets de la musique. Ah, ça s'est allumé, mais ça n'a pas répondu. J'ai un rapport très conflictuel avec mes deux assistantes, ouais. Karina est plus que mon assistante même aujourd'hui. Karina, elle est passée de stagiaire à assistante. Maintenant, c'est une productrice. Voilà, de toute façon, c'est moi qui décide les titres. Lui dites pas trop, elle va demander une augmentation. Mais pour moi, Karina est maintenant une productrice capable de gérer un projet de bout en bout. Je lui fais une très grande confiance. Oui, je me suis aperçu l'autre jour qu'en disant « Ok Hugo, ça marchait quand même, mon enceinte. »
D'accord.
Ah bah voilà, elle a répondu. De toute façon, tout ce qui est un peu en go, ça marche. Bon, il est 9h, on n'a toujours pas fait les camps de fac, mais en même temps, c'est vendredi. Le vendredi, tout est permis. Donc, je vous propose, après ce débat hyper intéressant, je trouve, hein, après, vous n'avez peut-être pas aimé, mais ce débat autour de YouTube, il est grand temps qu'on passe au camp de fac. Le moment où vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez, si vous avez des questions matos, c'est le moment où jamais d'essayer d'intercepter mon intention pour que je vous réponde en direct. Donc, c'est tout de suite dans les camps de fac. Et donc, c'est les camps de fac, ça va être bientôt la fin de l'émission, mais on va prendre 5-10 minutes, effectivement, si vous avez des questions à me poser. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin, donc je vais prendre direct les questions ou les commentaires. Hein. J'ai vu quelqu'un trouver que mes lives étaient nuls par rapport à mes vidéos. Il a le droit de le dire, hein, je le prends bien. Ça veut dire quoi, Google ? Alors, il y a plusieurs histoires autour du nom Google, mais je crois que ça vient d'un chiffre... Je crois que ça vient de ça. Tu as vu que ta chaîne était conseillée sous une vidéo du radis irradié. Ah bon, je connais pas. Mais oui, ma chaîne peut être recommandée. Hein. Mais en fait, il faut comprendre que sur YouTube, quand vous voyez quelque chose, ça ne veut pas dire que tout le monde le voit. Tout ce que YouTube fait est personnalisé pour vous. Les pubs que vous voyez... ne sont pas forcément les pubs que votre voisin va voir, même s'il regarde la même chaîne au même moment et même truc. Donc peut-être que tu as eu cette recommandation parce que par rapport à tes cookies et tes habitudes de consommation sur YouTube, on te l'a recommandé sous une vidéo de Radis Irradié. Donc. Je remonte. Oui, ça vient de Google qui est le plus grand nombre, d'accord. Quelle focale fixe pour de la vidéo run and gun? Ça dépend le type de plan que tu... Déjà, je conseille un zoom pour le run and gun. Tu vois, un 15-35, c'est très bien. Il y a deux longueurs focales que je conseillerais. Pour moi, le 35 mm est la focale la plus fixe et la focale fixe la plus versatile parce que tu vas quand même pouvoir faire un petit peu de paysage et tu vas pouvoir faire du portrait. Sinon, 50 mm, si vraiment tu dois filmer quelqu'un. Donc voilà, il faut qu'elle fixe. Pourquoi cet amour particulier de l'USB type C? Bah, c'est simplement qu'aujourd'hui, c'est le plus adopté. Moi, j'ai de l'USB C type C. J'ai de l'USB C à peu près de partout, sauf sur mon iPhone. Note 10 ou iPhone 11? Ta question est impossible parce que je ne sais pas si tu as l'habitude d'iOS, si tu aimes iOS ou Android. Donc en fait... le meilleur des smartphones sur iOS, c'est l'iPhone 11. Un des meilleurs smartphones sur Android, c'est le Note 10. C'est tout ce que je peux te dire. Y a-t-il une grande différence niveau vidéo entre un iPhone 11 et un Pixel 4? J'ai pas testé le Pixel 4. Je ne sais pas ce qu'il vaut en stabilisation. Je sais que Apple a un HDR très performant en vidéo. J'en ai parlé qu'on n'a pas sur Android. Donc j'aurais quand même tendance à recommander quand même l'iPhone 11 pour la vidéo, sans parler de l'écosystème d'app et notamment de LumaFusion, qui est un logiciel de montage absolument génial en mobilité que tu n'as pas dans le monde Android. Donc rien que pour ça, je conseille quand même l'iPhone 11. Pour de la vidéo, hein, spécifiquement. Attention, on ne parle pas de photos, on parle de vidéo, on est bien d'accord. Je voudrais un drone, tu conseilles le DJI Mini? J'y connais rien en drone, je ne les fais pas voler dans Paris, Cédric. Vaut mieux que tu demandes à Olivier Schmitt ou des gens qui font du drone. Pourquoi personne ne parle plus de Jaybird? C'est quoi déjà Jaybird? Peut-être la raison pourquoi on n'en parle plus, je ne sais plus ce que c'est. Il me dit quelque chose, mais... dis-moi, tu trouves que Logan Paul toxique à cause de sa vidéo polémique? Ah, je trouve le personnage hautement toxique et je le regarde plus du tout. J'ai regardé quand il y a eu des scandales autour de lui. J'ai re-regardé un petit peu après pour voir s'il s'améliorait. Ah, c'est pas pour moi tout ça. Après, ce qui est toxique pour moi n'est pas forcément toxique pour vous. Hein. On est en démocratie, on a le droit d'aimer, de pas aimer. Hein. Moi, simplement, quand j'aime pas quelque chose, je vais pas dire que je l'aime pas. Mais par contre, je le regarde plus. J'ai beaucoup de mal, personnellement, à comprendre les gens. Et il y a des gens qui ne m'aiment pas du tout. Et je le comprends, et même ça me rassure que des gens ne m'aiment pas du tout. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'ils continuent à me regarder avec acharnement. Ça, j'avoue que c'est un truc dans la psychologie que j'ai du mal à comprendre. De s'attacher autant à quelqu'un qu'on déteste. Moi, voilà, un créateur que j'aime pas, discrètement, je me barre et je regarde plus ce qu'il fait, quoi. Bonjour, Nautech, j'ai vraiment adoré les vidéos et le concept de live, même si je peux pas les suivre tout le temps. Mais il n'y a aucun souci. L'avantage d'une matinale, et moi, j'ai toujours conçu la matinale et le mug compris, qui est la nouvelle formule, pas pour être regardé forcément tous les jours. Si vous voulez le regarder tous les jours parce que vous êtes habitué à la matinale, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'il y a des gens... Puis il y a des gens qui viennent pour un quart d'heure, il y a des gens qui viennent pour une demi-heure, il y a des gens qui viennent pour l'émission au complet. C'est comme une matinale radio, c'est vraiment conçu comme de la radio. Un petit peu plus d'interactivité. Alors certains trouvent que je ne lis pas assez la chatroom. Ça, c'est parce que je pense aux gens du replay et que de trop lire la chatroom, ça engendre des silences. Ce qui n'est pas génial pour les gens qui écoutent en replay audio ou qui regardent en replay vidéo. J'essaye de... Là, pour le coup, j'essaie de trouver un équilibre entre l'interaction avec la chatroom et une présentation plus fluide type radio. Il dit dans sa vidéo qu'il dénonce une arnaque AirPods. Je vous mets dans la description bonne chaîne tech que j'apprécie honnête. Il y a Nautech. Ah, cool! Ça fait plaisir. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça fait plaisir. Je n'ai pas suivi ce que tu as dit au début. Apple est obligé de télécharger des programmes toxiques en Russie avant leur vente aux particuliers. What? Télécharger des programmes toxiques en... J'ai pas la même... Enfin, j'ai pas eu ta news, François, donc je sais pas de quoi tu me parles. Quelqu'un... Attends. Putain, ça va tellement vite, là, les commentaires. Ça a sauté. J'étais où? J'étais où? Oh là là, vous en avez des questions ce matin. Alors. Jérôme, on ne voit plus ton menton. Ben, c'est parce que je suis obligé là de me pencher. En plus, j'ai le sapin qui me gêne pour lire la chatroom. Donc, désolé pour le cadrage, mais je préfère lire vos commentaires. Est-ce que les AirPods sont les meilleurs écouteurs sans fil selon toi, Jérôme? Alors, selon moi, oui, parce que le design et la petitesse de la boîte est un des facteurs pour moi hyper important. Sinon, si le son était plus important pour moi que le design de la boîte, ça serait probablement on parle bien des écouteurs à réduction de bruit, hein. Ça serait probablement le modèle de chez Sony, qui a l'air techniquement meilleur en termes de son et de réduction de bruit d'ailleurs. Mais pour moi, la boîte est beaucoup trop grosse. Sympa la vidéo avec Patrick. Pourquoi sur le montage Nowtech Coffee, seul le Z6 est toujours mentionné? Tu le sauras bientôt pourquoi c'est le seul mentionné. Tu le sauras bientôt. On parle bien de la vidéo sur la chaîne. Ouais. D'ailleurs, les gens lui ont fait remarquer qu'il n'y avait pas Jojol dans les recommandations de chaîne Tech. Il a dit que ce principe de sélection, c'est ce que j'aime bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Je ne sais pas qui m'a sélectionné, mais j'en suis très content. J'adore ton polo. Alors, si ça, c'est un polo, hein, ce n'est pas un polo. C'est un hoodie un peu technique. Je l'aime bien, ce hoodie. Très, très, très chaud et très sympa. Bon anniversaire Mathis, j'ai pas vu que c'était ton anniversaire, mais bon anniversaire. Quel est le sens de la vie? 42. Arrêtez de me poser des questions évidentes, quoi. As-tu testé le Tamron 24 mm f2.8? Non. Recommandé, tu montres connectées, que ce soit pour Android ou iOS. Je connais pas les montres connectées Android. Et sur iOS, on n'a qu'une, c'est l'Apple Watch. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter la dernière. Les séries 3 et les séries 4 sont très bien. Salut tout le monde, tu penses quoi du Huawei Mate 30 Pro privé en natif des services Google? On en a déjà parlé dans les émissions en début de semaine, donc je t'invite à regarder les replays. As-tu joué à Red Dead 2 PC? Non, j'ai pas le temps. Mais oui, j'ai envie d'y jouer, mais j'ai absolument pas le temps. Un appareil photo pour commencer, pas trop cher. Un smartphone. Tu apprends le cadrage, la composition et le choix du sujet avec ton smartphone. Après, tu me reposeras la question avec un budget d'au moins 800 euros. Voilà, ma réponse est radicale maintenant. En dessous de 800 euros, restez sur vos smartphones, apprenez la composition en photo. Ça vous fera faire 1000 fois plus de progrès que n'importe quel boîtier, que n'importe quel objectif. Ça, c'est dit. Et je continue à le dire, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je continue. Des casques, il est 9h10, je sais, je vais bientôt finir. As-tu testé le Razer Jungle 4? Non. Jérôme, mon fils, Mathis, a eu 1 an, tu pourrais lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est fait, bon anniversaire, Mathis. Pas trop de demandes perso comme ça dans le. Parce que sinon, ça va être la fête du slip. Je le fais, mais c'est une exception. Parce que sinon, tout le monde va me demander de fêter son anniversaire dans la chatroom, ça va être l'enfer. Vous vous rendez pas compte. L'autofocus rame un peu. J'ai toujours pas mis à jour le firmware. Il paraît que le nouveau firmware des GH5, on a un autofocus sur le GH5. Et j'ai pas eu le temps encore de le faire. En plus, là, c'est un peu normal que l'autofocus soit dans la merde parce que je crois que je dépasse la distance minimum de focus. Donc ça, il a du mal. Et en plus, on lui a mis quand même un gros sapin dans le champ, hein. On n'a pas été très très gentil. Le GH5S vaut-il encore le coup? Carrément, c'est celui qui est en train de me filmer, hein, c'est le GH5S. Ça donnera quoi les prochains iPhone et AirPods? Bah écoute, si je le savais, je ferais beaucoup de vues en faisant une vidéo. Voilà le prochain iPhone 12. Mais j'aime pas beaucoup, même si on a parlé des rumeurs ce matin, je fais pas trop de vidéos sur des rumeurs, même si je sais que ça pourrait m'apporter énormément de vues. Des news pour du Shadow pour l'iPad. J'en dirai pas plus. J'ai la bêta sur iPad. Est-ce que je peux vous montrer un truc? Je pense qu'ils m'en voudront pas. Allez, et après j'arrête. Promis Samuel, après j'arrête, mais j'ai trop envie de montrer ça, si ça marche. Hein. Voilà. Alors, je vous montre juste hein, l'écran de mon... Ah, ben, j'allais le montrer à l'ancienne. L'écran de mon iPad, nouvelle interface du Shadow sur l'iPad. Je peux lancer directement mes jeux. Là, 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 là. Voilà tous mes jeux. Donc, je peux lancer mes jeux directement sur l'appli iPad. Donc, plus besoin de passer par Windows. Ta, ta, ta. Sympathique. Très, très sympathique. Donc ça, c'est la bêta de la prochaine app. Et on a déjà ça sur Android, hein. Mais ça arrive bientôt sur l'iPad, iPhone, de pouvoir... Alors, la gestion de la souris est toujours un point problématique. La gestion des manettes, il n'y a plus de problème. Clavier, il n'y a plus de problème. Le clic droit de la souris, il y a toujours un problème, mais c'est la faute d'Apple, ce n'est pas la faute de Shadow. Ils réfléchissent sur des choses. Je vous avais montré un prototype. Ils vont peut-être, mais il n'y a pas de date, sortir un dongle qui va gérer directement la souris sans passer par l'interface en gérant avec un serveur la souris et on aura le clic droit. Voilà. Est-ce qu'il y a GTA sur Shadow? Tous les jeux PC fonctionnent sur Shadow. N'importe quel jeu PC fonctionne sur Shadow. Mais sinon, c'est un PC sous Windows, le Shadow. Je vous montre, hein, regardez. Alors, peut-être que ça ne va pas marcher parce que... voilà, bah, vous voyez, c'est mon Windows là qui va se lancer. Et là, je suis sur iPad, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, allez, c'était une petite pub, un petit supplément que je ne facturerai pas à Shadow de démo. Allez, je vous quitte, il est 9h15, ça devient complètement indécent, mais bon, c'est vendredi, on s'est fait un petit peu plaisir. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, bon courage pour ceux pour qui c'est un petit peu la galère, bon courage aussi à ceux qui manifestent dans le froid, moi je souhaite bon courage à tout le monde. Comme j'ai dit, alors c'est sûr que les grèves, nous, c'est un problème pour la chaîne, je vous le cache pas. Karina habitant très très loin de l'atelier, il est probable qu'on ait des problèmes pour sortir certaines vidéos parce qu'il y a la grève et j'ai pas envie de dire à cause de la grève, c'est comme ça, c'est pas grave, on prend notre mal en patience, vous aussi, vous prendrez votre mal en patience. Je ne veux personne qui me reproche que des vidéos sont en retard parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça nous complique beaucoup le travail. Mais tout ça pour dire, je suis pas du tout anti-grève, bien au contraire. J'ai juste la tristesse d'être dans un pays où j'aimerais en tout cas qu'on arrive à négocier avant de faire des bras de fer. J'ai quand même toujours cette triste impression qu'on est obligé de faire des bras de fer, ne serait-ce que pour s'installer une table et négocier. J'aimerais qu'on puisse négocier avant qu'il y ait un bras de fer. Mais alors, 100% pour le droit de grève, à fond derrière certaines revendications. Si ça avait le moindre impact, vous auriez peut-être les youtubeurs en grève pour défendre la retraite, ce qui est déjà une vaste blague. Bref, on va pas parler de ça. Je vous fais des gros bisous. Passez un très bon week-end. Je vous souhaite du courage à tout le monde. Et on se retrouve lundi. Je ne sais pas si ça sera avec Marion ou pas, mais en tout cas, je serai là lundi. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.